CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce MAG, aujourd'hui, on vous proposera une rencontre avec Fabien Scheidler autour de son livre « La fin de la méga-machine » sur les traces d'une civilisation et de son effondrement. Rencontre ce samedi à la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Nobleval. Ce sera pour la deuxième partie de cette édition. Avant ça, on fête l'orgue Puget, samedi encore.
CFM.
La quatrième fête de l'orgue de Saint-Antonin-Nobleval, c'est ce samedi à 18h avec un concert et le lancement d'une collecte pour la Fondation du Patrimoine. Geneviève Faucroule est avec nous. Bonjour Geneviève.
Bonjour Lisa.
Pour les amis de l'orgue Puget de Saint-Antonin-Nobleval, alors la dynastie Puget, la dynastie de facteurs d'orgue sur trois générations je crois.
Oui, exactement. Les facteurs aux talents incroyables qui ont construit des instruments merveilleux, beaucoup dans le sud-ouest de la France, vu qu'ils étaient basés à Toulouse, mais il y en a aussi dans toute la France et également à l'étranger, même très loin dans le monde. Et donc voilà, c'est une facture magnifique où de fait il y a eu trois générations, Théodore le premier, et puis plusieurs de ses enfants, beaucoup de ses enfants travaillaient à l'entreprise, paraît-il, mais les deux plus connus étaient Jean-Baptiste et d'abord Eugène et ensuite Jean-Baptiste. Et puis Jean-Baptiste a eu son fils Maurice qui s'est mis aussi. Donc voilà, la troisième génération, c'était Maurice Puget, qui a travaillé jusqu'en 1960, jusqu'à son décès. Voilà. Et qui était tombé amoureux de Saint-Antonin-Nobleval, pour notre plus grand bonheur. Voilà.
D'où la présence d'un orgue en son église, un orgue que l'on célébrera donc ce samedi, mais qui se porte, qui est un peu malade.
Oui, donc notre pauvre petit instrument, donc c'est un orgue de chœur, c'est-à-dire que c'est un instrument pas très très grand, qui a 12 jeux, et les orgues de chœur sont donc posés au pied du chœur et non en hauteur, pas dans la tribune. Donc ce petit orgue est là depuis 1894, et il avait été construit en 1887, mais il est arrivé 7 ans plus tard à Saint-Antonin. Et donc depuis qu'il est là, ben, il subit évidemment le froid, les chaleurs, etc. Il y a eu des inondations très très graves, entre autres les inondations de 1930, mais aussi les instruments de toute façon s'abîment, vu qu'il y a du bois et des peaux. Les soufflets, entre autres pour l'air, sont en peaux, et donc Saint-Antonin est très très humide, donc en plus l'humidité a évidemment détérioré beaucoup de choses. Et donc là, il n'était plus restauré depuis les années maintenant 1970, donc ça fait longtemps, et donc il est vraiment en mauvais état. Et on essaie de le faire vivre, et on espère vraiment, le projet avance bien pour le moment, et on espère le faire restaurer d'ici 2-3 ans, donc ça bouge bien, grâce à tous les gens.
C'est facilement restaurable un orgue ?
Alors, restaurable, bon, c'est délicat, et donc on s'est fait conseiller par des organistes professionnels, par des facteurs. On a beaucoup discuté depuis 6 ans déjà, et par des experts. Et donc là, il y a eu l'hiver dernier une étude par un des 5 experts nationaux, là, monsieur Thierry Semenou, qui a fait un travail très très détaillé sur l'histoire de l'orgue, de ses origines à aujourd'hui, son état actuel, les diverses transformations qu'il a subies. Et donc après, voilà, il y a toutes sortes de possibilités de restauration. Des fois, quand c'est assez léger, on appelle ça un relevage, un gros nettoyage de l'orgue. Après, des restaurations, c'est réparer des tuyaux, réparer le soufflet, etc. La réserve d'air, qui est une chose très très importante dans tous les orgues. Et ici, malheureusement, vu qu'il a été très modifié dans les années 70, ce sera vraiment assez consistant comme restauration, des parties de construction, etc. Mais ça, c'est le domaine des experts et des facteurs. C'est à eux à décider, à préciser, voilà. Mais en tout cas, l'étude de M. Semenou nous a déjà beaucoup appris sur l'état de l'instrument actuellement.
Une restauration qui risque dans tous les cas d'être onéreuse. C'est pour ça que vous avez fait appel à la Fondation du Patrimoine pour lancer une collecte.
Oui, tout à fait, oui. Donc, dans le plan de financement, si vous voulez, on espère bien sûr des financements publics, donc les subventions de la région, du département, et on espère beaucoup les subventions européennes qui auront une part très importante. Ensuite, bien sûr, la mairie, mais une partie aussi. Et on avait proposé un financement participatif, et donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Fondation du patrimoine. Il nous semble que c'est important aussi que tous ensemble, collectivement, on participe aussi, tout à fait modestement, à notre mesure bien sûr, mais qu'un don du mécénat participatif peut être aussi une chose enrichissante pour que chacun mette un petit peu la main à la pâte, et vraiment chacun à sa mesure. Et à la Fondation du patrimoine, donc les dons sont entièrement libres, il y a des montants proposés, mais on peut vraiment mettre 10 euros à partir de 10 euros, ou même moins je crois, mais on met vraiment ce qu'on veut. Et donc c'est vraiment un projet qu'on essaye de faire vivre tous ensemble. Et donc là, on a un objectif qui est très clair, c'est on va essayer d'atteindre la somme de 10 000 euros d'ici le mois de décembre. Donc le temps est court, mais il faut qu'on s'y mette. C'est vraiment le moment où il faut y aller tous. Et pour cela, il faut trouver au moins 100 donateurs, et bien sûr plus. Ce sera plus facile si on est plus nombreux. Donc on espère vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde ce samedi au concert, qui est donc à 18h à l'église. Car à l'issue du concert, on va lancer, disons, officiellement cette campagne, et on espère qu'il y aura des élus présents. Il y a aussi un collectif d'organistes qui est en train de se monter juste là ces jours-ci. Un collectif d'organistes qui réunit des organistes toulousains, des professeurs du conservatoire, des organistes qui sont à l'étranger, des organistes locaux de Rodez, de Cahors, qui vont tous ensemble être les parrains du projet de l'orgue jusqu'à sa restauration, et on l'espère après aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de réseaux qui sont sollicités, et on espère vraiment toucher un public nombreux.
On peut retrouver beaucoup d'informations sur cet orgue Puget de Saint-Antonin sur www.orgue-saint-antonin.fr. On peut retrouver les liens pour participer à la collecte de la Fondation du patrimoine, et on peut retrouver les liens vers le programme de ce samedi, donc la 4e fête de l'orgue, ce samedi à 18h à l'église de Saint-Antonin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster par les oreilles ?
Alors, au niveau des oreilles et des musiciens, on est toujours très heureux parce qu'on a des musiciens, des amis qui acceptent de venir très généreusement chanter ou jouer de l'orgue ou jouer d'autres instruments pour soutenir toujours ce projet d'orgue.
Parce qu'il est en mauvais état, mais on peut quand même jouer dessus, hein.
Oui, il est en très mauvais état, mais néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, il joue. Donc, on espère que samedi, il jouera encore. Bon, des fois, on peut bien sûr avoir des pannes, mais pour le moment, je pense que ça va encore. Et donc, il est tout à fait jouable dans le mauvais état dans lequel il est. Il est néanmoins jouable et écoutable. Et donc, on aura dans les musiciens invités Albertus Derksen, par exemple, qui est l'organiste de la cathédrale de Cahors, qui est déjà venu jouer dans les petits concerts de l'été, qui revient très très gentiment. Il y aura des professeurs de l'école de musique de Saint-Antonin, l'école du rock d'Anglard, qui vont jouer saxophone et orgue. Il y aura une chanteuse mezzo-soprano qui s'appelle Joëlle Gay, qui chante dans le chœur des éléments à Toulouse, qui vient très gentiment aussi soutenir le concert. Il y aura de l'accordéon, il y aura donc des membres de l'association qui sont musiciens ou chanteurs, dont il y aura de l'accordéon, il y aura pas mal de voix, il y aura le consort qui chante depuis 7 ans pour l'orgue, qui s'appelle donc le consort Les Voix de l'Orgue, qui chantera de la musique de Palestrina, de Victoria, donc de la musique de la Renaissance, et également en première à Saint-Antonin, quelques extraits de musique extraordinaire du XIe siècle qui ont été copiés à l'abbaye Saint-Michel de Gaillac, qui s'appelle le Graduel de Gaillac. Donc il y aura des monodies, deux ou trois, musique du XIe siècle, c'est vraiment très très beau. Et voilà, donc il y aura des musiques différentes par des musiciens différents, et tous autour de ce projet.
Tout sur ce projet de la restauration de l'orgue Puget de Saint-Antonin. Et à l'issue donc de ce concert gratuit, la collecte sera lancée pour sa restauration.
Oui, exactement. Donc nous aurons aussi à l'issue du concert des corbeilles pour l'association et une table de Fondation du patrimoine à laquelle on pourra soit faire un don, soit prendre les explications pour faire un don tranquillement chez soi. On peut faire des dons très facilement par internet en allant sur le site de la fondation, par carte bancaire, et on peut faire aussi un don par chèque en envoyant le chèque et un bulletin de souscription qu'il faut remplir, mais c'est très facile, et ça il faut le renvoyer à la Fondation du Patrimoine, le bureau à Toulouse. Donc on sera là pour renseigner le public et les futurs donateurs.
Et on peut retrouver toutes les informations sur www.orgue-saint-antonin.fr. Les amis de l'Orgue Puget de Saint-Antonin nous lancent donc l'invitation à la 4e fête de l'Orgue. C'est ce samedi à 18h à l'église de Saint-Antonin-Nobleval. On vous retrouve là-bas, Geneviève Faucroul. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Lisa. À bientôt.
La suite de ce mag après la musique à propos de la fin de la méga machine. Ouvrage écrit par Fabien Scheidler qui sera présent ce samedi au Tracteur Savant, la librairie de Saint-Antonin.
CFM, en Tarn-et-Garonne. Le mag.
La fin de la méga machine sur les traces d'une civilisation et de son effondrement. C'est un livre paru aux éditions du Seuil, écrit par Fabien Schädler en 2015. Il est Fabien Schädler, auteur, essayiste, philosophe, journaliste et dramaturge allemand. Il sera présent ce samedi à partir de 18h à la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Nobleval. Ce livre a été traduit par Aurélien Berland. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Vous allez être présent à Saint-Antonin ce samedi. Vous allez modérer un petit peu le débat autour de ce livre, l'échange avec l'auteur et vous-même. Vous êtes docteur en et professeur de philosophie à Jean Jaurès à Toulouse. On va parler collapsologie avec Fabien Schädler.
Tout à fait. On va parler collapsologie ou plutôt question d'effondrement, puisque le thème du livre, c'est de montrer comment le système social dans lequel nous vivons n'est pas soutenable à terme. En fait, on le sait tous pour des raisons écologiques. Et donc, il va bien falloir changer tôt ou tard. Seulement, ce qu'il y a derrière l'idée de méga machine, c'est justement la difficulté à changer de trajectoire. Ça aussi, on le sait très bien. On a énormément de mal, malgré tout ce qu'on sait sur les limites de la planète, les limites des ressources depuis le rapport Meadows dans les années 70, donc qui s'appelait Halte à la croissance. On n'arrive pas à changer de modèle. Et donc, le plus probable, c'est que le changement passe par des phases d'effondrement de certains secteurs.
Vous écrivez à propos de ce livre qu'il s'agit d'une fresque historique, sociologique, anthropologique, de psychologie sociale et de théorie politique. Vous remontez avec Fabien Schädler jusqu'à l'âge du bronze pour voir d'où vient cette méga-machine.
C'est ça, une des idées centrales du livre, c'est que le système socio-économique dans lequel nous vivons, donc on peut l'appeler le capitalisme, la modernité, la société industrielle, le système technologique, il y a plusieurs manières de le nommer, mais ce système est basé notamment sur des inégalités très de plus en plus fortes et sur des systèmes de domination entre les humains, entre les pays, qui sont consubstantiels à ce système. Et donc pour le comprendre, il faut remonter à la genèse de ces rapports de domination et d'inégalité sociale. Et ça a commencé en fait avec à l'âge du bronze, où certaines innovations technologiques, on peut dire déjà, ou techniques, la métallurgie, a permis à la fois l'apparition des premières armes en métal qui donnaient aux guerriers qui les possédaient un avantage militaire immense par rapport aux populations désarmées, ce qui les a permis de les asservir. La métallurgie a permis aussi l'apparition de l'argent, des premières monnaies de métal, ces deux éléments, les armes et la monnaie, sont les deux fondements de ce que Fabien Schädler appelle le complexe monétaro-militaire caractéristique de la méga-machine.
Et on en arrive aujourd'hui à ce système monde. Il s'agit de l'enrayer, là, sur la fin de la méga-machine.
L'enrayer, c'est encore une fois... Il y a beaucoup de gens qui ont essayé depuis longtemps, en fait, de l'enrayer. Alors, de l'enrayer, si on y arrive un petit peu, de le freiner, de le calmer. Par contre, on a du mal à voir comment l'arrêter, le détourner de sa course folle. Et donc, le plus probable, et peut-être qu'on commence à rentrer dans des phases de ce type-là, c'est que, compte tenu des limites objectives de la planète, il y a des moments où ce système, cette expansion continue, ce système en expansion, qui a toujours besoin de croître, de croître, de croître, pour rendre tolérables les inégalités qui nous constituent, et ben ce système bute sur des limites, et que la rencontre de ces limites pose des problèmes et conduisent à des formes d'effondrement économique, au moins de certains secteurs. Actuellement, par exemple, là, il y a la reprise de la croissance post-Covid provoque, on voit, des pénuries dans plein de secteurs, la papeterie, les semi-conducteurs, donc les ordinateurs et l'électronique, etc. Donc il n'y a pas encore des phénomènes d'effondrement, mais il y a beaucoup d'inquiétudes chez les acteurs économiques.
La fin de la méga-machine a été écrite en 2015. Il y a des pages qui ont été rajoutées, je crois, juste après le premier confinement lié au Covid.
C'est ça. J'ai traduit le livre juste avant l'épidémie de Covid, puisque j'ai rendu le manuscrit je crois le 15 mars, et juste la veille du discours de Macron annonçant le premier confinement. Et donc entre le moment où j'ai fini la traduction et puis le moment où le livre est paru à la rentrée 2020, Fabienne Scheidler, donc pendant le premier confinement, a écrit des pages sur le Covid pour montrer comment l'épidémie de Covid-19 dans laquelle nous sommes pris depuis un an et demi n'était pas était intimement liée à ce qu'il décrivait dans le livre, puisque de toutes les hypothèses qui ont été imaginées pour expliquer l'origine de cette épidémie, toutes sont liées en effet au fonctionnement de la méga-machine, à son expansion continue, donc que ce soit l'hypothèse que ça vienne d'élevage industriel comme d'autres pandémies, que ce soit l'hypothèse que ça vienne, que ce soit un accident de laboratoire, le fameux laboratoire de P4 de Wuhan, ou que ce soit l'hypothèse que ce soit transmission par chauve-souris, pangolin, etc. Tout ça, c'est lié à l'expansion de la méga-machine, puisque cette dernière hypothèse n'a de sens que si les habitats humains et les habitats de certains animaux se rapprochent au point de se côtoyer et font que certaines maladies portées par certains animaux se transmettent à l'homme.
Mais est-ce que vous proposez des alternatives sur les traces d'une civilisation et de son effondrement? On n'en sort pas un peu complètement déprimé?
Ben, pas du tout. C'est là où le livre est très différent de la collapsologie. Parce que il s'achève par un chapitre final qui est plein de propositions. L'idée centrale, en gros, c'est de comprendre que on a du mal à freiner ou à changer, à infléchir la direction de la méga machine quand elle est en pleine puissance. Mais par contre, la méga machine, elle génère sans cesse des crises. Des crises économiques ou financières comme en 2008, la crise des subprimes, des crises sanitaires comme en 2020, des crises politiques très régulièrement comme en 2018 avec les gilets jaunes, etc. Et dans ces moments-là, le système est fragile. Le système est extrêmement fragile parce que malgré tout, il repose sur le consentement, l'adhésion, l'acceptation des gens. Donc dans ces moments de fragilité, c'est des moments de basculement. Et la question, c'est de savoir de quel côté ça bascule. Est-ce qu'on bascule à droite, pour le dire brutalement? Est-ce que la crise va provoquer un basculement à droite ou plutôt un basculement à gauche vers plus d'égalité, plus de tolérance, plus de respect? Et donc, ce que propose Fabienne Scheidler, c'est d'imaginer ce qu'il faut faire dès aujourd'hui pour que, lors de la prochaine crise économique ou sanitaire, si il y a des effets de basculement, ce soit dans le bon sens et pas dans toujours le même sens depuis des décennies.
Aurélien Berland, vous avez traduit cet ouvrage de Fabienne Scheidler, donc La fin de la méga machine. Est-ce qu'il s'agit d'un ouvrage universitaire, un ouvrage interdit aux moins de 18 ans?
Pas du tout. Moi, j'ai traduit cet ouvrage parce que Fabienne Scheidler, il est dramaturge à la base. Il écrivait des opéras, il faisait du théâtre, il faisait de l'art. Il n'est pas du tout universitaire. Et donc, il n'a pas du tout la langue universitaire, le côté langue de bois, jargon, etc. Il a le sens du récit, il a le sens de l'explication, il a le sens de la synthèse. En fait, c'est une fresque et une magnifique synthèse de plein de travaux, mais qui rend tous ces travaux accessibles, et parfois en les résumant très brièvement, des ouvrages qui font 500 pages sont résumés en 3 pages, mais du coup ça permet de rendre accessibles toutes ces idées à des non universitaires ou à des gens qui ne sont pas férus de lecture. Et c'est ça la principale qualité du livre, c'est son accessibilité et son style. Ça se lit très simplement, c'est très facilement, et donc c'est accessible à des enfants à partir de 16-17 ans, pourvu qu'on ait envie de se poser des questions et qu'on aime lire un petit peu. C'est extrêmement accessible à tout le monde.
Aurélien Berland, vous serez présent ce samedi à 18h à la librairie Le Tracteur Savant de Saint-Antonin-Nobleval, en compagnie donc de Fabienne Scheidler, qui a écrit cet ouvrage La fin de la méga machine sur les traces d'une civilisation et de son effondrement. On va vous laisser le mot de la fin, Aurélien Berland, en attendant de vous retrouver ce samedi.
et bien venez écouter Fabien Scheidler et vous verrez en plus la manière de la son français est tellement excellent que c'est complètement fascinant de l'écouter parler de tous ces thèmes et de répondre aux questions du public.
Merci beaucoup Aurélien Berlin, à ce samedi.
Au revoir, à samedi.
Ce mag sera rediffusé à 17h et à 21h30, réécoutable sur le site cfmradio.fr. Voici les